Notre méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui porte sur le sujet « Plus besoin d'attendre dehors et pas besoin de faire la queue ». Depuis une semaine, nous nous retrouvons à nouveau dans une période de confinement et nous avons certainement, chacun d'entre nous, fait l'expérience de voir des activités commerciales fermées ou autres lieux. Et c'est triste de voir tout cela et ça nous amène quand même à nous rendre compte que nous traversons une période assez compliquée sur le plan sanitaire, mais aussi compliquée par rapport à celles qui sont nos habitudes. Nous avons certes une certaine difficulté à accepter que nos libertés nous soient à quelque part retirées. Loin de moi de vouloir entrer en quelconque forme de polémique, ce n'est ni le sens de ce temps de message, ni les raisons qui m'amènent à vous partager cette méditation. Je pense qu'il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter que encore nous puissions avoir des membres des familles qui décèdent parce que nous n'avons pas été peut-être assez attentifs. Donc prenons les précautions et surtout je vous engage et je vous invite à avoir soin les uns des autres. Cela dit, j'aimerais introduire avec vous ce temps de méditation par le livre de l'Exode. Parce que, au même titre que toutes les activités aujourd'hui, même les lieux de culte, ne peuvent pas véritablement recevoir du public, ne peuvent pas recevoir pour pouvoir maintenir les activités normales, les cultes, les réunions de prière, les activités avec la jeunesse, les enfants, tous ces moments qui rythment aussi notre vie spirituelle et qui nous permettent de grandir avec Dieu. Néanmoins, il demeure important pour nous de considérer l'importance qu'elle a pour nous la relation personnelle avec Dieu et comprendre la manière où cette relation elle a subi un changement radical, profond, par un acte incroyable qui est celui du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais reprenons l'histoire dès le départ. Exode chapitre 26, à partir du verset 31. Exode chapitre 26, à partir du verset 31. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia, couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, et posées sur quatre socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Amen. Pour quelle raison Dieu a établi et a souhaité mettre une séparation? Pour quelle raison créer des espaces différents dans lesquels, je dirais, l'accès était de plus en plus restreint? En effet, le peuple avait le droit de rentrer dans les parvis, dans l'enceinte. Mais en ce qui concerne le lieu saint, que les sacrificateurs avaient le droit de rentrer, on le lira ensemble. Et le lieu très saint, c'était encore quelque chose de beaucoup plus réservé. Dieu choisira des hommes, un peuple, qui sera mis à ce service. Puisque tout le peuple ne pouvait pas accéder au lieu saint, au lieu très saint, il fallait bien que quelqu'un soit mis à part pour servir Dieu. Dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, au chapitre 6, le verset 34, 1 Chroniques 6, 34, nous lisons « Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Il remplissait toutes les fonctions, dont le Saint des Saints, et faisait l'expiation pour Israël, selon tout ce que avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Donc les sacrificateurs avaient été instaurés par Dieu pour accomplir un service, je dirais quelque part de presque médiation, puisque tout le monde ne pouvait y en rentrer, mais ils avaient aussi une responsabilité. Ce travail, cette charge, cette responsabilité était liée aussi à une attitude, à une tenue spirituelle, morale et même vestimentaire qui devait être impeccable. Malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas. Les règles étaient strictement établies et leur violation était fortement sanctionnée. Mais en ce qui concerne le Saint des Saints, c'était encore un lieu, je dirais, inviolable. Seul le souverain sacrificateur pouvait accéder une fois par an. Pour avoir un tableau un peu plus clair, je vous invite à faire une lecture dans le livre aux Hébreux, chapitre 9. Livre aux Hébreux, Nouveau Testament, à partir du chapitre 9, versets 6 à 14. Hébreux, 9, 6, 14. Tout cela ainsi, disposé, les sacrificateurs entrant en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissaient les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, donc dans le lieu, dans le Saint des Saints, seul le souverain sacrificateur pénétrait une fois par an, sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrant par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps présents, aujourd'hui, pour nous. Elle signifie que le don et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'au temps de réforme. On fait une pause, et on comprend par ces premiers mots, par ces premières lignes de cette lecture dans le livre des Hébreux, que les sacrificateurs avaient été appelés à accomplir un service, mais ce service était limité. Limité à cause de quoi ? Il devait accomplir des sacrifices, puisque la nature humaine fait que l'homme pêche continuellement, et ce lieu était réservé à un service et à un peuple bien défini, mais à quelque part était une première image de ce qui allait suivre. Si dans la première image, il n'y avait que certaines personnes qui avaient le droit d'y accéder et le peuple attendait dehors, dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu a souhaité ne plus laisser les hommes dehors, mais donner à tous ceux et celles qui font de Dieu, leur Sauveur, leur Seigneur. Il souhaite donner accueil dans ce lieu qui était avant réservé, fermé. Ce lieu était fermé à cause du péché. Mais dans le sacrifice de Christ, ce péché a été effacé. Ce n'est plus le sang des animaux qui avait coulé pendant des siècles pour venir accomplir cette demande de pardon. Ce sacrifice était nécessaire, sans effusion de sang, pas de pardon, dit la parole de Dieu. Mais là, Dieu nous accorde une grâce particulière, un don précieux en Jésus-Christ. Je vous invite à faire la suite de la lecture à partir du verset 11. Ça nous permettra d'avoir une vision plus claire. Il dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse n'ont qu'en réponse sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Jusque-là, tant que le sacrifice était ceux des animaux, il venait véritablement apporter un pardon, mais qui restait à quelque part extérieur. Le cœur de l'homme ne changeait pas. Les hommes ont tendance à rester dans leurs habitudes, dans leur confort. Mais Christ est venu pour changer cet état de choses, cet état et cette condition de péché des hommes, en nous amenant un pardon, mais en payant le prix de notre pardon par son sacrifice, rentrant ainsi dans le lieu très saint et purifiant nos cœurs, purifiant nos âmes une fois pour toutes. Le texte dit pour nous purifier nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Le changement n'est pas seulement du cœur, n'est pas des questions d'habitude. Et je dirais, attention, croire en Dieu, c'est pas mettre en acte des rituels. Dieu n'attend pas de nous des rituels. Dieu attend de nous une foi véritable, sincère, une conscience purifiée des œuvres mortes. Ça veut dire que tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'a pas de valeur spirituelle, tout ce qui pourrait même nous souiller, ne devrait plus avoir de place dans notre cœur et dans notre vie pour que nous puissions, nous tous, servir le Dieu vivant. Mais comment ce changement a pu-il se réaliser et pourquoi ce changement était nécessaire? Jusque-là, vous et moi n'aurions pas eu d'accès à la présence de Dieu. On se serait retrouvé, comme dans ces temps qui sont les nôtres, avec une porte fermée ou quelqu'un qui nous aurait dit « Non, désolé, ce lieu est réservé que à certaines personnes. » On aurait dû attendre dehors, ne jamais véritablement connaître cette relation intense avec Dieu, personnelle avec Dieu. On n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir servir le Dieu vivant. On se serait cantonné à des rituels, on se serait cantonné à des héritages spirituels, les héritages religieux transmis de père en fils, mais on aurait été loin véritablement de ce que Dieu désire. On aurait été loin de ce qui est le meilleur pour nous. Pour que tout cela puisse s'accomplir, si Dieu a donné à Moïse l'ordre d'établir ce voile et de mettre à part l'arche du témoignage pour que tous les hommes ne puissent pas y accéder, s'y approcher, c'était très dangereux. On le voit dans la parole de Dieu. Il y a un moment où quelqu'un a voulu éviter que l'arche tombe. Il l'a touché, il a été foudroyé sur place. Personne ne pouvait toucher, même si ses intentions étaient bonnes. Et personne ne peut s'approcher de Dieu juste parce qu'il a des bonnes intentions. Il y a une manière. Il y a une attitude de cœur. Il y a un désir de Dieu pour que nous puissions nous approcher librement, oui. Mais vous savez, il y a des règles qui demeurent encore aujourd'hui. On ne doit pas penser qu'on peut s'approcher n'importe comment. D'ailleurs, lors du transport de l'arche, ce moment où ce soldat a voulu maintenir l'arche pour pas qu'elle tombe, l'arche était transportée sur un char. Or, Dieu avait donné un ordre bien précis. l'arche devait être amenée par les sacrificateurs. Et la désobéissance à cette manière de Dieu de voir les choses a conduit malheureusement à la mort de quelqu'un qui était un homme bien, certainement, qui avait certainement des bonnes résolutions dans son cœur, mais qui malgré tout ne répondait pas aux attentes et aux règles que Dieu avait établies. Par Christ, par Jésus, nous avons vu, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase. Alors qu'il fallait avant amener le sacrifice des animaux, le sang qui devait être versé, là, Christ a reçu de la part de Dieu de changer cette règle, nous faire rentrer dans une nouvelle étape. Moi, j'appelle ça le jour du changement. Je vous invite à le lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 45. Matthieu 27, 45. Le jour du changement. C'est le jour où Jésus a donné sa vie à la croix. C'est un jour important. C'est un jour dans lequel, en effet, tout un ensemble de prophéties se sont accomplies. C'est un jour dans lequel Dieu a fait don de son Fils afin que par sa mort et son sacrifice, vous et moi, nous puissions recevoir la grâce, le pardon, la guérison. C'est le jour du changement, parce que jusque-là, les ténèbres régnaient et Christ, qui est la lumière, est venu vaincre les ténèbres. C'est le jour du changement, parce qu'à partir de ce jour-là, vous et moi, nous avons eu une porte ouverte à la grâce. Mais faisons la lecture ensemble. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Eli ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, le tombeau s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparurent en grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il est vraiment le Fils de Dieu ». Le jour du changement, le jour où la terre a été ébranlée, le jour où les ténèbres ont été déchirées par le sacrifice de Christ. Ce même jour, à ce même moment, à l'instant où Jésus a rendu son âme, alors qu'il était à la croix et qu'il souffrait énormément, après avoir accompli toute l'œuvre que Dieu le Père lui avait confiée, le texte nous dit que le voile, ce voile qui avait été voulu par Dieu, ce voile qui était nécessaire jusque-là, a été déchiré de haut en bas. Si Dieu a voulu le voile, c'est Dieu lui-même aussi qui l'a déchiré. Ce n'a pas été par l'œuvre humaine, ça n'a pas été une décision humaine, ça a été une action de Dieu. À partir de là, ce voile de séparation a été enlevé, et cela pour notre salut. Le centenier, ceux qui étaient là pour garder Jésus, ceux qui étaient en train, en réalité, d'alimenter son supplice. Nous l'avons lu, il avait soif, ils lui ont offert, pas une boisson fraîche, non, du vinaigre. Quand on souffre, on a besoin de quelque chose de doux. Quand on est auprès de quelqu'un qui souffre, on essaye d'alléger ses souffrances. Et là, ce n'était pas du tout le but. C'était dans le but de, je dirais, amplifier les souffrances. Et là, suite aux événements qu'ils vont vivre, en voyant la manière où les choses se produisent, ont été eux-mêmes obligés de reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alors, si Jésus a accepté de payer à la croix pour nos sacrifices, pour nos péchés, pardon, en se sacrifiant lui-même, en apportant son sang auprès de Dieu le Père, pour nous acquérir, pour nous acquitter de notre vie du passé, il s'est substitué à nous, la croix, symbole de mépris, de malédiction, c'était ce qui était réservé à chacun d'entre nous. Et Jésus, il s'est substitué à nous en montrant ainsi que il était ce souverain sacrificateur qui accomplissait une médiation entre les hommes et Dieu. Jusque-là, tous les sacrificateurs, même le meilleur des sacrificateurs, restait qu'un homme. Il avait besoin lui-même de se purifier de ses erreurs, de ses fautes, de ses péchés, avant d'apporter, une fois par an, ce sacrifice qui pouvait être accepté comme aussi refusé de la part de Dieu. Si le sacrifice était refusé, le sacrificateur mourrait sur place. Son pied était rattaché à une cordelette et il avait une clochette autour de lui pour que on entende qu'il était encore en mouvement, en train de faire le service pour lequel il était rentré dans le lieu très saint. Mais si tout bruit s'arrêtait, ça voulait dire que Dieu n'avait pas agréé le sacrifice et donc le sacrificateur était mort. Et on se servait de cette cordelette pour ressortir le corps. Terrible vision, dure réalité. De là l'importance à comprendre que demander pardon à Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas quelque chose à faire et à prendre à la légère. Si le sacrifice était accepté, le sacrificateur, alors qu'il était rentré, le souverain sacrificateur qui était rentré dans le lieu très saint, il ressortait en marche arrière. Et j'imagine qu'en ressortant, il devait certainement souffler de joie, en se disant « Ouf, ça a été. Dieu a fait grâce, Dieu a pardonné. » Jésus, lui, n'ayant commis aucun péché, est rentré dans la présence de Dieu en apportant son sang, pour en réalité payer le prix, une fois pour toutes, pour que vous et moi, nous puissions connaître un pardon véritable et un pardon qui amène un changement, pas seulement extérieur, mais avant tout intérieur. Certes, l'extérieur doit aussi changer. On ne peut pas et on ne doit pas avoir une double vie, une double personnalité. Si Dieu règne dans notre cœur, la première transformation est dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions. Notre vie extérieure change et ceux qui nous voient changer se rendent compte qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a surtout quelqu'un de particulier qui habite notre cœur, Dieu lui-même. On va faire encore une lecture, toujours dans la lettre aux Hébreux. On va aller au chapitre 6. Puisque nous a ouvert Jésus une porte nouvelle. Le voile a été déchiré. Je vous rappelle, nous en avons fait la lecture lors du sacrifice de Christ à la croix. Le voile a été déchiré. Le but, ce n'est pas maintenant de sortir les aiguilles et le fil ou la meilleure des machines à coudre et recoudre le voile. Non, ça serait une erreur grave. Certaines religions l'ont fait. Certains religieux le font encore aujourd'hui. Mais l'acte de Dieu a été celui de déchirer le voile. Et de grâce. Ne faisant rien pour recoudre ce voile et remettre une séparation. Mais comprenons bien le sens que Jésus a donné à son sacrifice pour nous à la croix. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17, il nous dit en ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers, donc à vous et moi, de la promesse, une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ce texte, cette parole, nous amène à considérer que cette espérance, elle est pour nous comme une ancre solide et ferme. Vous savez, cet objet lourd qui est encore aujourd'hui utilisé pour permettre à des bateaux, des navires, de pouvoir rester sur place alors que peut-être la mer elle est agitée. Notre vie, elle est agitée par différentes situations, différentes épreuves, mais si notre espérance est en Dieu, si notre foi, elle est en Dieu, si notre vie appartient à Dieu, nous sommes, nous tous, ancrés solidement et fermement au-delà du voile, dans ce lieu très saint, dans ce lieu où l'accès jusque au sacrifice de Christ était réservé à un petit nombre. Mais Jésus, dit le texte, nous l'avons lu ensemble, est entré pour nous comme un précurseur. Ça veut dire qu'il a fait et il nous a donné l'exemple, il nous a montré le chemin, il nous a donné les lignes directrices pour pouvoir nous aussi, par lui et en lui, rentrer dans cette présence. D'ailleurs, une dernière lecture. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Hébreux 10, 19, nous montre que Jésus a été précurseur avec cette volonté, ce désir pour nous tous de mettre fin à cette attente extérieure à la présence de Dieu. Mettre fin aussi au besoin de faire la queue. La porte, elle est ouverte pour tous ceux et celles qui croient en Dieu et qui veulent faire de Dieu leur Seigneur et Sauveur. Pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus ainsi que son sacrifice, en lui donnant la place qui lui revient, celui de Messie, Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Une dernière lecture. Puisque tout est accompli pour nous donner accès à la présence de Dieu, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. S'il vous plaît, n'hésitez plus. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, confessant notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Comme nous venons de le lire, prenons juste quelques instants pour bien examiner, pour bien comprendre, pour bien saisir l'invitation qui nous est faite. Ça serait dommage de rester dehors et de vouloir s'imposer des choses que Dieu ne nous demande pas. La parole nous dit que Dieu a ouvert un libre accès au sanctuaire. Plus personne peut vous dire non, tu n'as pas d'accès. Si votre vie est en règle avec Dieu, aucun homme pourra vous dire non, tu n'as pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Votre relation, elle est directe avec Dieu. Mais attention, faisons bien état des choses. À partir du verset 22 de ce dernier texte que nous avons lu, Hébreux 10, verset 22, il nous dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère. » Comme je l'ai dit au départ, il y a des règles qui restent immuables. Et Dieu nous a ouvert une voie nouvelle, mais les règles demeurent immuables. Il est question pour nous de nous approcher avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Alors comprenons bien, ce n'est pas du rituel. Ce n'est pas de rite que Dieu attend de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur pur, des mains pure, une conscience pure, et cette pureté ne peut pas être donnée autrement que par une réelle repentance, par une véritable conversion et non pas une adhésion. Ce n'est pas une question de devenir quoi que ce soit, c'est une question d'être transformé véritablement et profondément par le sacrifice de Christ. Son amour est grand. Et quand nous prenons la notion de l'amour de Dieu, forcément notre cœur se doit de changer. Donc, plus que d'une question d'extérieur, il est bien évidemment une question intérieure. Approchons-nous donc d'un cœur sincère et une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je voudrais terminer par rajouter aussi le fait que celui qui nous reçoit, Dieu, sonde les cœurs. Personne ne nous connaît comme Dieu nous connaît. Si notre cœur n'est pas sincère, Dieu le voit. Si notre foi n'est pas entière, Dieu le sait. Si notre cœur n'est pas purifié et notre conscience n'est pas propre, ce n'est pas nos rituels. Ce n'est même pas nos belles actions qui vont changer quoi que ce soit. Il est question pour nous de vivre et confesser notre espérance sans fléchir, ça veut dire sans déroger à ses règles. Nous ne pouvons pas ajouter à ce que Dieu a établi des modes de faire que Dieu ne nous demande pas. Lui, il est fidèle. Il s'est engagé. Et il tient ses engagements. Et nous demande de faire de même. Si nous nous engageons avec Dieu, il est question pour nous de vivre notre engagement. Ça veut dire aussi que nous nous sommes engagés à servir Dieu. Et notre vie de prière notre relation avec Dieu, puisque cette porte, elle nous a été ouverte. Il n'est pas question pour nous juste de savoir qu'on a une porte ouverte et de jamais la franchir. Mais il est question pour nous de rentrer dans ce service pour Dieu et dans ce service de Dieu par une vie de prière aussi. En priant, oui, nous servons Dieu. En priant, nous manifestons à Dieu le besoin qui est le nôtre et la dépendance qui est la nôtre d'être près de lui. En priant, nous servons Dieu parce que nous prions aussi pour les besoins des uns et des autres. Et là, nous implorons le secours de Dieu et nous témoignons autour de nous de la grandeur, de la bonté, de la miséricorde de Dieu. En priant, nous sommes nous-mêmes amenés jour après jour à ces transformations profondes de notre cœur. La prière est aussi celle qui nourrit et manifeste notre foi. La prière est celle qui nous permet, jour après jour, avec la grâce de Dieu et le secours de Dieu, de nettoyer notre cœur, notre âme, de toute mauvaise conscience, nous approcher de Dieu et demander pardon. C'est ce qui nous permet véritablement d'entretenir cette relation, sans laquelle ça serait juste une porte qui est ouverte, mais qui en réalité nous avons fermée à cause de nos transgressions. Cette porte, elle est ouverte encore aujourd'hui. Oui. La porte de la grâce, elle est ouverte encore aujourd'hui, mais il n'en sera pas ainsi pour toujours. Il arrivera un moment où la porte sera refermée. Pourquoi ? Parce qu'il arrivera un autre temps que Dieu a déjà préparé, déjà prévu, dans laquelle chacun devra rendre des comptes. Or, ceux qui auront saisi cette porte ouverte, ceux qui auront véritablement travaillé à leur relation avec Dieu, agi en conséquence, ils seront passés par cette porte et ne vivront pas de jugement. Mais ceux qui auront refusé, ceux qui auront négligé, ceux qui auront préféré garder cette porte comme une simple porte de secours au cas où, je crois qu'ils vivront un triste réveil et se rendront compte que cette porte finalement leur est fermée et n'est plus là. Elle n'est plus à leur disposition. Ils l'ont refusée. Et ce qui leur restera, ça sera juste un jugement qui les amènera à quelque chose de terrible et d'horrible. Pourquoi vous dire ça? Parce que je pense que tant que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et ce serait terrible et injuste de ne pas vous faire part des dangers encourus par tous ceux et celles qui refusent de franchir cette porte, de recevoir avant tout ce pardon et d'accepter finalement de servir Dieu. Je manquerai à mon service et à mon appel pour Dieu si je ne vous disais pas aujourd'hui que vous avez besoin, comme chaque être humain a besoin, de cette relation profonde avec Dieu, véritable, fondée sur quelque chose de personnel avec Dieu, en Jésus-Christ. Je manquerai à mon service et à mon appel si je ne vous mettais pas devant la réalité. Le choix demeure le vôtre. Le choix, il est personnel. Le centenier aurait pu faire semblant de rien, aurait pu se cantonner à accomplir son service, mais à un moment, il a dû quand même avouer que Jésus était le Fils de Dieu. À ce moment-là, je pense que cet homme, il a réalisé l'erreur qu'il a commise jusque-là et la manière où il avait agi envers Jésus. Chacun d'entre nous, nous devons prendre notion de ce à quoi nous nous exposons en agissant selon nos propres principes sans tenir compte de la main tendue que Dieu nous offre. Ne pas accepter, c'est un choix qui aura certainement aussi ses conséquences. Mais pour ceux qui ont choisi, pour ceux qui ont décidé d'accueillir Christ comme Seigneur et Sauveur, cette porte, elle est ouverte. Et cette porte, elle est là pour que vous et moi, nous puissions librement nous approcher de Dieu. Alors sans tarder, et surtout sans négliger cette porte, approchons-nous de Dieu. Soyons ensemble, soyons dans la prière, en nous exhortant les uns les autres à avoir une foi pleine et entière. Gardons nos cœurs purifiés, gardons nos mains propres et fléchissons nos genoux devant Dieu, notre Père. Apportons-lui nos prières, apportons-lui notre louange et plaçons cette relation au-dessus de toute chose. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans ces temps de prière que vous allez passer de manière personnelle. Chacun, on est chez nous, mais chacun d'entre nous, nous sommes invités à rentrer par cette porte qui est ouverte. Que Dieu vous bénisse.